France Musique.
Merci Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
Aujourd'hui,
Yann Robin.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans le portrait contemporain, j'ai le plaisir de recevoir le compositeur Yann Robin. Depuis une bonne dizaine d'années, on apprécie la vigueur de ses propositions, la force de son souffle vital, son énergie de forgeron, qui se traduisent par des partitions affirmées où les interprètes sont sollicités dans une virtuosité toujours intense. Ses œuvres pour quatuor, pour ensemble ou pour orchestre mettent en jeu une savante complexité dans un geste qui affirme paradoxalement la présence brute de la spontanéité. Samedi prochain à Marseille, dans le cadre du Festival des Musiques organisé par le GMEM, on découvrira son nouveau monodrame « Papillon noir » conçu avec l'écrivain Yannick Enel, le metteur en scène Arthur Noziciel, la soprano Élise Chauvin et des ensembles multilatérales et les métaboles dirigés par Léo Varinsky. C'est l'occasion idéale pour faire le point avec Yann Robin pour notre plus grand plaisir ce soir sur France Musique.
Thank you.
Les premières minutes d'Art of Metal numéro 3 de Yann Robin avec Alain Billard à la clarinette contrebasse métal et l'ensemble métal contemporain sous la direction de Susanna Melki. Bonsoir Yann Robin.
Bonsoir Arnaud Merlin.
C'était il y a 10 ans cette partition ?
Je crois bien tout juste 10 ans, c'est-à-dire j'ai dû finir de l'écrire début mai, me semble-t-il, 2008, effectivement. Donc on est juste à... Oui, c'est ça, il y a 10 ans.
Yannick Enel, un écrivain que vous connaissez bien, écrit à propos du disque sur lequel figure cette pièce. C'est un souffle de forge, l'ancienne, l'ancestrale sauvagerie du chaos. Ce chaos qui, chez les Grecs, ne signifie pas la confusion, mais la béance, l'abîme qui précède la création. Qu'est-ce que vous pensez de ces lignes de Yannick Enel ? Est-ce que ça décrit votre musique ? Est-ce que ça évoque quelque chose dans votre processus de création ?
Je pense toujours que du bien des lignes de Yannick Enel. Après lui, il a sa vision avec ses mots pour pouvoir décrire une chose qu'il voit ou qu'il entend. Donc, en fait, je ne peux que rejoindre ce qu'il dit à ce sujet-là. Mais j'aurais beaucoup de mal moi-même à décrire ma musique ainsi. Il le fait très bien pour moi, donc je le laisse faire.
L'image de forgeron, c'est l'image de l'artisan aussi. Finalement, un compositeur, c'est aussi un artisan.
C'est pleinement un artisan. Il est nécessaire d'être artisan. Il y a un contact avec la matière qui est permanent, qui est nécessaire à mon sens, et qui est d'abord, en quelque sorte, dans l'abstraction, au niveau de la pensée, pour le temps de la réalisation de la partition, mais en même temps, qui est pendant ce temps d'abstraction, il y a un travail aussi à la table, avec le crayon, avec le papier. Donc il y a ce travail artisanal. Puis ensuite, le travail de l'artisan se continue avec les musiciens sur place, sur le plateau, avant la création, la reprise d'une pièce, où on retouche des choses, on réajuste un petit peu certains paramètres pour pouvoir obtenir la chose que l'on désire, la chose que l'on veut, la chose que l'on a pensée.
Pour revenir à l'image du forgeron, dans Art of Metal, il y a art, mais il y a aussi métal. Là, c'est très important, puisque c'est une clarinette contrebasse entièrement métal.
C'est une clarinette contrebasse métal, il y a deux formats. Il y a celle en bois, que je connaissais très bien à l'époque, c'est en 2004 que j'ai vraiment découvert ça. Et celle en métal, que j'ai découvert lors du centre à Kant, qui se tenait à Metz cette époque-là. Cette époque-là, on a eu la chance d'avoir comme prof invité.
Oui, c'était un stage pour des jeunes compositeurs qui s'est tenu longtemps en Avignon, puis à Metz.
Exactement. Donc là, il y avait l'ensemble intercontemporain, il y avait l'IRCA, mais comme prof, nous avions... c'était Philippe Manoury et Jonathan Harvey aussi. Et il se trouvait qu'il y avait deux œuvres de l'un et de l'autre où il y avait la clarinette contrebasse en métal qui était employée. Et donc j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir. Et cet instrument qui a ouvert des mondes nouveaux au niveau de la pensée. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on s'est rencontrés avec Alain Billard, qu'on a commencé à travailler ensemble sur tout le projet, tout le cycle Art of Metal qui finalement devait simplement sortir un concerto pour clarinette contrebasse ensemble. Et de là, il est sorti trois pièces.
Toujours dans ce texte de pochette qui accompagne ce disque, Bruno Mantovani, compositeur qui est de votre génération, parle de votre hédonisme, que vous avez en partage avec lui d'ailleurs, de la générosité de votre écriture, de l'opulence, de votre force de caractère. Et puis il parle aussi de votre rapport au jazz, de l'énergie de l'improvisation, du goût des climax spontanés et assumés.
Pleinement assumé, pleinement moi-même, je pense aussi. C'est même des choses sur lesquelles aujourd'hui j'essaie de me réfréner un petit peu. Mais effectivement, quand vous pratiquez cette musique qui est le jazz, qui est assez codifiée, bon, les codes changent naturellement au fur et à mesure des époques depuis l'existence de cette musique-là. Et il y a toujours ces moments, on va dire, ces moments de jouissance collective, si j'ose dire, de climax, effectivement, qui arrive comme ça progressivement à la suite de chorus, donc d'improvisation de chacun des interprètes qui sont soit dans le trio, dans le quartet ou dans une plus grande formation. Et effectivement, ce sont des choses qui sont extrêmement intenses à vivre de l'intérieur que de partager ces moments-là et surtout d'amener les autres à ces moments-là. Et effectivement, cette spontanéité que vous pouvez, qui est nécessaire d'avoir dans cette musique improvisée, à mon sens, m'a beaucoup aidé dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte, une spontanéité qui a toujours été là, qui m'a facilité un petit peu les choses à certains moments dans l'écriture et qui m'a aidé aussi à appréhender de manière abstraite encore les durées. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'écriture d'un temps musical à la table, il faut pouvoir éprouver la durée du temps musical avec un temps biologique afin de pouvoir ressentir ce qui se passera, donc arriver à ces moments de climax et de ces moments névralgiques, je dirais.
Et ces moments névralgiques, ces moments de climax, on peut aussi les obtenir quand on est 95 musiciens, tout en gardant cet esprit de spontanéité. Là, évidemment, tout est écrit.
Tout est écrit. Quand on a un bon guide, ça marche extrêmement bien. Donc ce bon guide s'appelle toujours François-Xavier Roth. Et c'était, si vous faites allusion à Monumenta, c'était Ecclesiaire Baden-Baden. Et oui, c'est possible d'obtenir ces moments-là.
Un extrait de Monumenta de Yann Robin par l'orchestre de la SVR Baden-Baden et Freiburg sous la direction de François-Xavier Roth. C'était en septembre 2013 dans le cadre du festival Musica à Strasbourg. Un orchestre qui malheureusement n'existe plus sous cette forme-là. Yann Robin, un chef d'orchestre avec qui vous avez aimé travailler, François-Xavier Roth.
Mais j'ai adoré travailler avec lui. C'était un plaisir immense dans le sens où déjà quand il travaillait en partiel, la pièce, donc je me rappelle très bien, on était à Freiburg et il faisait répéter tous les pupitres de cordes. Et pendant qu'il faisait répéter les cordes, il chantait les parties de cuivre, il criait. C'était absolument génial. Il avait intégré complètement la partition. Il lisait vraiment au travers de mon esprit là où je voulais aller. Et il a réussi à en tirer, grâce à cette pièce de Rolls qu'il avait devant lui, le meilleur. Pour une création, c'était inespéré d'obtenir ça avec une telle pièce. C'était assez fabuleux. Je garde un souvenir de mes meilleurs souvenirs en termes de création jusqu'à aujourd'hui.
Ça s'appelle Monumenta. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu toute une période où vous avez eu besoin de forcer la densité, d'accentuer la texture sonore en termes d'épaisseur ?
Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la dimension de monumentalité était au début du projet, sur le titre était préfiguré à l'écriture de la pièce. Et il y avait deux choses. Déjà, la pièce pour orchestre que j'ai écrite juste avant celle-ci était Inferno pour grand orchestre électronique, où donc il y a énormément d'électronique, où il y a un travail sur le monde d'en bas, mais au niveau des cordes, je n'avais pas tout divisé encore. Et pour moi, la pièce Inferno sonnait encore trop comme un orchestre symphonique. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, des fois, nous, compositeurs, on se laisse happer, croquer par les mâchoires de l'orchestre symphonique qui a un son si sublime. Et je m'étais mis pour projet en tête de trouver une solution pour ne pas subir ce beau son symphonique et essayer de trouver une autre manière en tout cas de l'approcher. Donc j'ai divisé l'ensemble de l'orchestre en parties réelles, donc il y avait 95 parties réelles, donc 95 portées, et donc de ce fait je pouvais accéder à chacun des instrumentistes comme des solistes, ce que j'ai fait, et de ce fait il y avait une partition qui était faite monumentale, c'est-à-dire elle est assez énorme, je peux pas décrire la taille, c'est du A1 ou A0, je me rappelle plus exactement. Donc, déjà il y avait cette première chose. Deuxième chose, il y a l'orchestre sur scène de 95 musiciens. Déjà, quand vous avez ça en face de vous, ça représente, en termes d'espace, une masse monumentale. Et il y a une autre chose aussi, qui est en rapport avec cette question de la division de l'orchestre, c'est la question du monument. C'est-à-dire que le monument, dans nos esprits, est une chose qui est censée rappeler le passé. D'accord. Donc l'orchestre rappelle très souvent le passé, de par sa codification, de par ses codes, qui sont inhérents au fonctionnement de l'orchestre et aussi dans l'esprit des musiciens. Donc l'idée, c'était essayer, je ne vais pas dire de faire exploser ces codes ou de les briser, mais en tout cas d'amener ces codes ailleurs. Et de fait, la chose qui fonctionne très bien en divisant l'ensemble des pupitres de cordes, donc il y avait 60 cordes divisées, en plus des 35 qui restaient à côté entre les cuivres et les percussions et les bois, il y avait une sorte de responsabilité de la part de chacun des instrumentistes qui était de fait dans l'écriture. Et ça a extrêmement bien marché. Juste pour la petite histoire, très rapidement, durant une répétition, il y a un altiste, deuxième ou troisième rang, pupitre, je ne me rappelle plus exactement, qui lève la main et dit « je voudrais vous voir à la pause ». À la pause, il arrive avec son alto et il commence à me montrer deux types de positions d'inclinaison d'archet, si je voulais ça ou ça, comme son, qu'est-ce que vous voulez. Donc il y avait vraiment une implication finalement de la part de chacun des musiciens, comme si eux-mêmes étaient des solistes, dans un ensemble de solistes de 15 ou 20 musiciens, et tous ont pris ça profondément à cœur, et je pense que c'est pour ça que nous sommes arriver jusqu'à ce point-là.
Une implication de chacun des musiciens qu'on va trouver évidemment plus facilement dans un ensemble dit spécialisé ou a fortiori dans un quatuor à cordes. Là, ils ne sont que quatre. Pour votre troisième quatuor à cordes, vous avez pris une image, c'est celle de la diffraction de la lumière. Ça s'appelle Shadows. C'est finalement le même parcours que vous faites faire au son, c'est ça ?
Alors, Shadows, j'ai pris ce titre-là pour une raison au départ bien précise, c'est que le quatuor Tana, au moment où je termine d'écrire cette pièce-là, nous enregistrions ils enregistraient un CD de quatuor à cordes où trois compositeurs étaient représentés, Franck Bedrossian, Raphaël Sando et moi-même. Et le titre de ce CD s'appelait Shadows. Et il sortait le jour de la création de mon troisième quatuor à cordes. Et au-delà de la diffraction de la lumière, la diffraction du son, des ondes, de l'aura du son autour de, en, en, pré, en, pressant les cordes, en pressant très fort l'archer sur les cordes, il y avait cette volonté en fait de quelque part d'unifier cette sortie de disque et la création de ce troisième quatuor pour rendre hommage et pour disons, comme un don que je faisais au quatuor Tana à cet instant précis qui était un moment important pour eux.
Thank you.
Un extrait du troisième quatuor de Yann Robin, Shadows, par le quatuor Tana. C'était un enregistrement réalisé en septembre dernier en l'abbaye de Royaumont.
Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
Yann Robin, vous dites, en repoussant les limites instrumentales, on repousse les barrières de l'imaginaire. Est-ce que cette virtuosité très exigeante pour les instrumentistes vous semble nécessaire aujourd'hui ?
Nécessaire pour mon univers à moi, c'est-à-dire dans le sens où on a tous des limites. L'important, c'est de les connaître. Et quand on les connaît, on peut les dépasser. Et en fait, cette espèce de binôme, en tout cas que j'affectionne beaucoup, entre le compositeur et l'interprète, et le lieu à partir duquel il est vraiment possible de repousser ces barrières-là et d'aller chercher, on va dire, l'inouï à travers des techniques instrumentales poussées qui peut-être au départ seront à trouver. Il y a des propositions toujours qui viennent de moi-même avec l'interprète ou l'interprète qui me propose des choses, et c'est en fait la conjonction de ces choses qui nous permet en fait de trouver de nouveaux timbres, de nouvelles situations sonores, de nouveaux, et donc du nouveau matériau aussi pour des pièces à venir.
Est-ce que votre travail sur l'électronique a aussi nourri cette recherche sonore, y compris quand vous travaillez uniquement avec des instrumentistes ?
J'en suis convaincu, c'est-à-dire que tout le travail effectué par l'électronique, mais pas non seulement moi-même, mais je vois toute une certaine génération de compositeurs, donc le fait que l'électronique soit naturellement intégrée dans la pensée affecte naturellement le monde acoustique. Et de toute façon, au-delà même de la pratique de l'électronique, toutes les musiques que l'on peut écouter qui sont périphériques à la musique dite classique viennent elles aussi, en tout cas, nourrir l'imaginaire et permettre de trouver de nouvelles choses. En tout cas, j'en suis quasiment certain.
Quelle est votre position aujourd'hui par rapport au travail sur la perception ? On a beaucoup parlé depuis une quarantaine d'années de la perception autant que de l'écriture finalement. Est-ce que c'est une démarche qui vous anime dès la conception de la partition ?
Mais la question de la perception est naturellement au centre même du travail de... Disons que quand on est dans un processus de notation, donc d'imagination, qui est un petit peu aux antipodes de ce qu'est la perception, parce que la perception, c'est vraiment l'instant du concert, c'est l'instant, c'est le présent, en quelque sorte. Et l'imaginaire, c'est une espèce de hors-temps, de non-temps, à l'intérieur duquel on prépare cet instant de la perception. Donc la perception est extrêmement importante pour moi. Je parlais de temps musical dans l'abstraction quand on écrit, et être capable aussi de voir et d'entendre ce que l'on écrit en le chantant, par exemple, pour pouvoir éprouver ce temps musical en tant que temps biologique. Et déjà, quand on est capable d'éprouver ce temps biologique à la table, pendant le temps du travail à l'intérieur même de notre imaginaire, cela nous permet déjà d'avoir une espèce de sensation de ce que sera le temps de la perception, donc le temps... l'instant de la naissance de la pièce.
Est-ce que ça n'exclut pas la spéculation pure ?
Je pense pas que ça n'exclut pas du tout, parce qu'il y a toujours une part, en tout cas, dans la notation, dans l'écriture, il y a effectivement cette chose-là qu'on éprouve, cette chose-là qu'on essaye de vivre à l'avance, mais aussi il y a une part qui nous échappe. Et toute la part de sérendipité, c'est-à-dire toute la part qu'on ne peut pas maîtriser, en quelque chose, sur laquelle on perd le contrôle, c'est toujours un pourcentage qui est souvent plus infime que le pourcentage que l'on maîtrise. Mais c'est cette chose-là, cette sérendipité, qui est que l'on découvre au moment de la perception, et le lieu aussi, l'endroit où il y a peut-être les choses les plus intéressantes qui se révèlent à nous-mêmes. C'est peut-être ça que l'on est, c'est la chose qui nous échappe, la chose que l'on ne contrôle pas, la chose que l'on ne maîtrise pas.
Vous avez écrit il y a 2 ans et demi une pièce intitulée Arkham, dont on va entendre un extrait d'un enregistrement réalisé à Francfort en 2016. Arkham, ça veut dire quoi ?
Arkham, alors j'ai emprunté ce titre-là, ce mot-là, à un grand écrivain américain, un des maîtres de l'horreur, en quelque sorte, c'est Howard Philip Lovecraft, qui avait baptisé, en fait, une ville, Arkham, et c'était à la base une ville en Nouvelle-Angleterre, dont lui, en fait, était issu. Sa ville s'appelle Providence à la base, il l'a nommé Arkham. Et ça, c'est Arkham est le lieu à partir duquel se passent toutes les histoires et toute la littérature de Lovecraft. C'est un lieu clos, un lieu fermé, où naissent, alors je sais pas si elles naissent, ces créatures-là, mais en tout cas, il y a tout un monde d'en bas, un monde abyssal qui se révèle et qui m'a vraiment extrêmement touché quand j'ai pu le découvrir il y a assez longtemps, et en quelque sorte qui fait aussi un petit peu écho D'un point de vue poétique et métaphorique, tout le travail que j'ai pu réaliser sur Inferno, donc l'enfer de Dante, il y avait un parallèle. Donc, après tout ce travail sur l'enfer de Dante, j'ai repris la lecture de Lovecraft par pur plaisir, et finalement, une pièce est sortie de là. Il y a un travail encore sur une continuité du travail sur le monde d'en bas.
Thank you.
Un extrait de Arkham de Yann Robin par l'ensemble moderne dirigé par Emilio Pomarico. C'était en concert en septembre 2016 à Francfort. Yann Robin, dans trois jours, vous signez Papillon Noir. C'est une création en collaboration avec l'écrivain Yannick Hennel et puis aussi avec le metteur en scène Arthur Nosiciel. C'est un monodrame. C'est quelque chose d'assez rare dans la production contemporaine, le monodrame. On a quelques exemples. Je pense à Cassandre de Jarrel, par exemple.
Oui, il n'y en a pas tant que ça. Et aussi de Schoenberg.
Ouais. Oui, mais ça fait quelques années. C'est pas d'hier.
C'est pas d'hier, il y a quelques années, effectivement. En fait, c'était la question de l'opéra au départ qui était... mis en avant avec Yannick Hennel, et très rapidement on est tombé, même pas eu besoin de discuter, ça tombait sous le sens qu'il n'y ait qu'une seule protagoniste, en tout cas dans ce projet d'opéra, pour diverses raisons. Yannick avait envie d'écrire dans la voix d'une femme. Moi, ça me permettait aussi de me concentrer sur un seul et même personnage, parce que la question de l'opéra, la question de la vocalité a été pendant très longtemps une véritable interrogation. Je dirais pas un problème, une véritable interrogation. Pour comment écrire aujourd'hui pour la voix dans ma langue. Et là, j'ai trouvé, grâce au texte de Yannick, grâce à ce projet-là, une possibilité, en tout cas une possibilité de développer, en tout cas mon langage, de la sorte. Alors, je ne sais pas, là, on est à trois jours de la création, je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais en tout cas, je pressens une possibilité pour développer un petit peu les choses dans le cadre de ce qu'on appelle l'opéra, au travers de cette première expérience opératique monodramique.
Vous avez une relation déjà assez ancienne avec Yannick Hennel. C'est quelqu'un qui vous est proche ?
Qui m'est, oui, très proche. On a eu la chance de partager pendant un certain temps la Villa Médicis. On était tous les deux pensionnaires de la même promotion. C'était en 2009-2010. Et on s'est vraiment rapprochés à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous êtes pensionnaire là-bas, il y a d'autres pensionnaires aussi. Et il y a des rencontres qui se font.
Il y en a qui se font pas. Donc celle-là probablement est
plus forte.
Ça, j'en
parle même pas. Et celles qui se font et qui durent. Et celle avec Yannick, c'est une relation qui a démarré là-bas avec déjà des désirs de faire des choses ensemble. On en a fait déjà ensemble, mais au travers plus de multilatéral, moi en tant que directeur artistique.
C'est un ensemble, l'ensemble multilatéral. Hein.
Voilà, qui jouera aussi là. Et donc avec Yannick, il y a ce projet en fait d'opéra qui remonte à 2009. On est parti sur des idées au départ en fait qui étaient autres que qui sortaient plutôt des adaptations de sujets qui ont tous finalement abouti à des impasses. Et puis le jour où on a décidé que ça serait Yannick qui écrirait le texte, disons que c'est moi qui ai réalisé, mais j'ai un écrivain absolument génial à côté de moi, pourquoi n'écrirait-il pas quelque chose? Et Yannick s'est totalement libéré et effectivement il s'est mis à travailler sur le texte du Papillon Noir. Et on a travaillé ensemble sur des échanges, on s'est retrouvés à différents moments. Puis il a fait ce texte-là, voilà, que j'ai accueilli avec un immense plaisir.
Papillon Noir, on est proche du livre des morts tibétains, dans l'inspiration, à l'origine.
Il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc il y a le texte de Yannick Hennel, qui est en français pur. Et à côté de ça, il y a un ensemble de 13 musiciens, il y a un chœur de 12 chanteurs. Et effectivement, le chœur de 12 chanteurs est traité vraiment différemment de la voix. Ça n'a pas du tout la voix, en tout cas de la chanteuse, de l'actrice chanteuse.
Qui est Élise Chauvin.
C'est-à-dire que pour le chœur, je me suis appuyé sur le Bardo Tödöl, donc le livre des morts tibétains, et Bardo Tödöl voulant dire le grand guide par l'écoute dans l'état intermédiaire. Ce grand guide par l'écoute propose un certain nombre de mantras à différents moments. Et j'en ai pris 25 plus 1. De mantras. Il y a 25 mantras à 7 syllabes et 1 à 6 syllabes qui sont en fait du matériau pour moi à la base pour pouvoir créer, bon, à partir des phonèmes pour pouvoir créer ma matière, la manière sonore dont j'ai besoin. Donc il y a vraiment l'utilisation de ces mantras-là pas du tout dans la psalmodie des moines tibétains que j'utilise de manière purement timbrique, sonore. Et en même temps, il y a toujours une référence symbolique en rapport avec le texte de Yannick Hennel. Mais bon, Yannick ne savait pas ceux que j'allais choisir à la base. Et je les ai intégrés en fonction des nécessités, on va dire, dramaturgiques dans le Papillon Noir.
Il y a un dispositif électronique avec le GMM, avec Charles Bascou.
Alors, il y a un dispositif électronique qui sera extrêmement léger. Alors, j'ai au fur et à mesure que le temps passait, j'ai gommé mes envies par rapport au projet. Alors, ici, c'est toujours le projet, finalement, qui guide la nécessité de telle ou telle chose. Et il n'y aura de l'électronique que sur le cœur, mais qu'à des moments très précis. Je n'en veux pas tout le temps. C'est vraiment l'inverse des choses que j'ai pu faire auparavant, où tout le monde était traité en temps réel, ça partait tout le temps dans tous les sens. Là, non, je voulais quelque chose d'extrêmement discret, quelque chose de, je dirais, de vaporeux, en rapport justement avec toute la poétique autour du bardo Teudl, et de cette femme, ce protagoniste plutôt.
Alors, qui dit opéra dit mise en scène. Là, ça sera une mise en espace avec Arthur Nosiciel.
C'est une, oui, c'est exactement la première sera une mise en espace avec une création lumière, mise en espace d'Arthur Nosiciel. Alors c'était un choix qui a été fait assez rapidement, il y a un peu plus d'un an, puisque le temps qui nous était imparti in situ n'était pas suffisant pour pouvoir réaliser exactement ce que aimait réaliser Arthur. Donc on va faire au mieux avec le temps que l'on a, et on garde la création avec la grande, la création de la mise en scène telle que qu'il aimerait la réaliser pour à partir de la saison 19-20.
Donc ce sera samedi prochain à La Criée, au Théâtre National de Marseille, à 20h dans le cadre du Festival Les Musiques, organisé par le GMEM, le groupe de musique électroacoustique de Marseille. Et tout ça sera dirigé par Léo Varinsky, à la tête de l'ensemble multilatéral et des métaboles, avec Élise Chauvin en soliste. Alors évidemment, on ne peut pas en écouter un extrait tout de suite. Donc je vous propose, Yann, qu'on se quitte avec un extrait de votre concerto pour violoncelle Quarks, avec Éric Maria Couturier en soliste. C'était l'Orchestre National de Lille, dirigé par Peter Rundel. En octobre 2016, à Lille, on a d'ailleurs entendu ce concerto sur cette antenne.
Thank you.
extrait de Quarks, concerto pour violoncelle de Yann Robin avec Eric Maria Couturier en soliste et l'Orchestre National de Lille dirigé par Peter Rundel. Je rappelle la création de Papillon Noir, ce sera à La Criée, Théâtre National de Marseille, samedi prochain, le 12 mai à 20h. Et puis ce sera repris quelques jours plus tard à Gennevilliers le 18 mai. Merci beaucoup Yann Robin d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci beaucoup Arnaud Merlin.
Merci à Flora Sternadel et Solal Mazron qui nous ont aidés à préparer cette émission qui était réalisée par Max James avec ce soir la technique Bastien Varigo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Pascal Zavaro. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne.
À réécouter sur francemusique.fr.